Donc bonjour à tout le public et bonjour à toi, enfant du futur immédiat. Oui, toi qui nous prêtes attention. Bah oui, parce que dès que l'on parle de sous, de monnaie, de pognon, de transactions bancaires, à partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute. Et quand on parle d'acheter, qu'on est passé du troc aux pièces, on oublie quelle révolution ce fut pour l'humanité. Non, je ne parle pas du quotidien que dirigea Jean Jaurès et qui lutta contre les grands comptes en banque, mais de tous les papas du monde qui n'avaient plus à chercher une enclume et un âne quand madame la future maman avait une brusque et irrépressible envie de poulet aux fraises à 2h du matin. Le fait d'avoir une unité de mesure commune entre tous les biens, produits et services, et bien évidemment impôts, a simplifié grandement les échanges, le commerce et la reconnaissance de dettes. On pouvait enfin estimer à partir de combien le mauvais payeur allait vraiment perdre un bras. Puis arriva la lettre de change, l'ancêtre du chèque, qui permit de faire voyager de fortes sommes entre lointaines places de marché sans avoir à se trimballer plus d'or qu'un groupe de rap West Coast. Fini les risques d'attaque à main armée de la part des rappeurs de la côte Est. Yo. Ensuite, en dématérialisant complètement le papier pour le télégraphe, les banquiers utilisèrent la possibilité de crypter un message, ce qui en fut d'ailleurs le premier usage non militaire. C'est ainsi que la machine Enigma fut éprouvée par les banques allemandes dans les années 20, avant qu'Hitler ne la remilitarisa accidentellement suite à un pique-nique sur la Ruhr. Le cryptage permet de s'assurer que seul le destinataire lise l'ordre de virement, que seul l'émetteur autorisé puisse l'écrire, et que le montant ne soit pas modifié ou perturbé. En soi, c'est vraiment une signature. La révolution suivante arriva avec la carte de paiement. Dans une publicité de la Barclays Bank de 1966, une nymphette va faire ses courses à Londres, seulement habillée de son bikini et de sa Barclays card. On voit plus de gens de pub, malheureusement. Et comme une bonne partie de l'émission va parler de cartes bancaires tout à l'heure, je te propose un exercice. Alors pour cela, c'est très simple, je te recommande de te munir dès à présent d'un papier, d'un crayon et d'une carte de paiement, voire même de toutes celles qui sont présentes dans la maison, tu vas voir, c'est très amusant. Et non, ça va pas te coûter un rond, sauf si effectivement tu ne penses pas à brûler la feuille de papier après, hein, ce serait un peu con. Bref, la notion de banque a elle-même évolué. Par exemple, la Banque de France n'est plus une institution privée tenue par une centaine de familles depuis belle lurette. Et depuis 2001, il n'est plus possible d'ouvrir un compte en banque au Trésor public. Oui, avoir une carte bleue avec le logo du Trésor public était tout à fait faisable. Un très grand moment quand un taxi t'annonce une facture éhontée avant de voir le logo à la Marianne. C'est ce que Philippe Noiret appelle « avoir la carte ». Revenons au métier de banquier. Enfant du futur immédiat, sais-tu pourquoi les agences bancaires construisent de monumentales salles des coffres ? À grands frais, car il faut esclaver des mètres cubes de terre, verser des mètres cubes de béton et d'acier, alors qu'au final, ces banques n'y stockent que des sommes en liquide tout à fait dérisoires et que la monnaie dématérialisée est bien plus pratique de nos jours. Bref, la réponse, elle est uniquement dans la confiance, ce que le client place dans sa banque. La salle des coffres de ton agence de quartier n'est qu'un effet de présentation, un peu comme le pâtissier qui est visible depuis la boutique quand il fait un énorme gâteau, ou le maître d'hôtel qui aiguise son grand couteau avant de te préparer une chiffonnade de jambon. Tu achètes une prestation que tu n'utiliseras jamais, mais qui te donne confiance dans le métier du conseiller bancaire en face de toi. Car oui, il n'y a plus de vrais banquiers dans les agences qui te reçoivent, mais des commerciaux multicartes capables de te vendre des assurances, des abonnements presse, des forfaits 4G, des bouquets de fleurs, et bien évidemment, des calendriers en fin d'année. J'espère qu'ils ne sont pas à poil. D'où la question de la confiance. Les banques ont fusionné avec les assurances, se sont diversifiées dans l'immobilier, la presse, la téléphonie mobile. C'est idiot, mais mon réflexe de programmeur expérimenté applique le premier principe dit solide. Alors, il y a 5 principes, et la première lettre, donc, c'est S. S pour Single Responsibility Principle. Chris, je le dis bien ? Non, évidemment. C'est donc, en fait, le principe d'une responsabilité unique. On va confier une chose, une seule chose à faire. Par exemple, la clé de ta maison va juste ouvrir ta maison et va pas ouvrir ta boîte aux lettres. Ou alors, il y a un problème. Si tu sais faire une chose, fais-le très très bien. Ne te disperse jamais. Moi, par exemple, je ne passe jamais le balai. Mais je sais très bien ouvrir les canettes de bière à partir de là. Ce que je ne reprocherai jamais en tant que consommateur, c'est que les principes de base de la sécurité informatique ne sont plus totalement respectés par les banques. Rien que le système de paiement sans contact frise le ridicule en termes de sécurité pour ton argent et pas que de poche. Et comme certaines banques insistent très lourdement pour une fonction qu'elles maîtrisent mal, elles pourraient en payer la dette technique au prix fort. Tu as recherché la notion d'aide technique sur Wikipédia, tu as l'habitude. Et quand une banque perd la confiance de ses clients, ceux-ci se ruent au guichet pour en vider leur compte. Cela s'appelle un bank run. Non, je le prononce encore mal. Et annonce quasi inévitablement la mort d'un établissement de crédit faute de... Crédit, c'est une répétition, je suis désolé. Raser de près le pronom CTLM. À tel point que les modes de paiement parabancaires reviennent en force, comme les monnaies de proximité, les programmes de fidélité, comme les miles des compagnies aériennes, et le Bitcoin, qui mérite une émission à lui tout seul, donc on ne va absolument pas en parler ce soir. Mais il est alors quasi impossible d'emprunter, sauf si on considère par exemple Kickstarter comme étant une nouvelle manière de se financer à crédit. La monétique est devenue le moyen le plus courant en France, au point que nous sommes moins habitués à payer de fortes sommes en liquide, contrairement aux États-Unis, au Royaume-Uni, à l'Allemagne et à d'autres pays développés. Tiens, par exemple, j'ai un ami qui était installé à Tokyo et qui se sentait pas tranquille du tout quand il a payé une année de loyer en avance à son bailleur en liquide, alors que là-bas, c'est une pratique en fait qui est extrêmement courante. En France, le paiement en espèces, sonnante et trébuchante, sur des montants de 3 chiffres et plus avant la virgule, est devenu, en l'espèce, l'exception. Ah, elle est nulle, ce jeu de mots, ok, on la coupera au montage. Et d'ailleurs, sais-tu que les paiements en liquide sont plafonnés en France, désormais à 1000 euros maximum. Et pourquoi ? Pour lutter contre le terrorisme. Or, il suffit de voir suffisamment de films d'action pour savoir que les terroristes qui achètent des missiles nucléaires avec des mallettes bourrées de billets ne s'occupent pas d'un petit détail juridique ou même de remplir un constat d'accident à l'amiable quand ils tamponnent une voiture sur l'autoroute. Enfant du futur immédiat, il faut quand même reconnaître que la carte bancaire est une commodité monumentale qui ne fait pas ses 50 ans d'âge et qui s'est démultipliée par téléphone, par courrier, par Minitel, par Internet et désormais par smartphone. Pas mal pour une carte de plastique grande comme une carte à jouer.